Chapitre 9. La plage. L'art est infiniment grand et pourtant infiniment petit. Il est grand comme le monde et le ciel, et aussi petit que le plus profond du cœur d'un homme. La façon dont il s'écoule signifie qu'on peut s'y laisser emporter, éprouver le passage de son courant ou le contenir tout entier en soi. Ce sentiment d'une relation directe est partout. Et en tout. C'est pourquoi, pour maîtriser l'art, il faut maîtriser le soi. Grellefeu, maître d'art de la reine frugale. Comme je m'y attendais, je me retrouvais plongé dans les ténèbres et la désorientation, tiraillé par l'art, bataillant pour maintenir mon intégrité et celle du prince. Par pure volonté, je restais conscient de nous deux et gardais le garçon intact, bien que le protégé derrière mes murailles d'art s'assimilât à retenir du sel dans son poing sous un déluge de pluie. J'avais l'impression que, si j'ouvrais la main si peu que ce soit, il allait s'écouler entre mes doigts. À cela s'ajoutait la sensation illogique de tomber vers le haut. Je serrais devoir contre moi en me répétant que tout serait bientôt fini, mais rien ne m'avait préparé à surgir dans une mer glacée. L'eau salée pénétra dans ma bouche et mon nez alors que, saisi, j'inspirais brutalement. Le prince et moi nous enfonçâmes ensemble sous la surface et je sentis un choc contre mon épaule, tandis que Devoir se débattait si violemment que je faillis le lâcher. Un courant nous entraîna, puis, comme je distinguais de la lumière à travers un épais voile glauque et en déduisais dans quelle direction se trouvait le haut, une vague s'empara de nous et nous jeta sur une plage rocailleuse. L'impact libéra le prince de ma poigne. La vague nous roula sur la grève rocheuse sans nous laisser l'occasion de respirer. Et les pierres encroûtées de moules et de bernacles m'arrachèrent la peau. Et puis l'eau se retira en m'emportant avec elle, mais ma ceinture se prit dans une concrétion et je restai échoué, enfin immobile. Je levai la tête, suffoquant, expectorant un mélange d'eau et de sable, puis je battis des paupières et cherchai de voir des yeux. Il était toujours dans l'eau, à plat ventre sur la grève, et il essayait désespérément de s'accrocher au rocher tandis que la vague l'entraînait en se retirant. Il atteignit à reculons une zone plus profonde, mais réussit à trouver une prise solide, et il s'arrêta, toussant et hoquetant. Je retrouvai mon souffle.
« Debout !»
hurlai-je d'une voix rauque.
« Relevez-vous avant la vague suivante !»
Il me regarda d'un air de totale incompréhension. Je me redressai, et me précipitai vers lui d'un pas mal assuré. Je le saisis par le col et le traînai sur les bernacles raboteuses, vers la plus haute marque de marée. Une vague nous rattrapa et me jeta à genoux, mais elle n'avait plus assez de puissance pour nous aspirer dans sa retraite. Devoir réussit à se mettre debout et, nous soutenant mutuellement, nous franchîmes l'étendue de pierres saillantes pour pénétrer sur une bande de sable noir, festonnée de varechs, qui s'écrasait mollement sous nos pas. Quand nous parvînmes sur du sable sec, je lâchai le prince Devoir. Il fit encore trois pas et s'effondra. Il resta un moment allongé sur le flanc, à reprendre sa respiration. Puis, il se redressa, cracha et s'essuya le nez de sa manche trempée. Il parcourut des yeux le paysage avec un air ahuri, et quand son regard revint sur moi, il avait une expression enfantine d'égarement.
Que s'est-il passé?
Du sable crissait sous mes dents. Je crachais. Nous avons traversé un pilier d'art. Je crachais de nouveau.
Un quoi?
Un pilier d'art, répétai-je, et je me tournais pour lui désigner l'objet. Il n'y avait rien, rien que l'océan. Une nouvelle vague déferla et s'élança plus haut que les précédentes sur la grève, laissant une dentelle d'écume blanche quand elle redescendit. Je me levai maladroitement et contemplai la marée montante. De l'eau, des vagues, et au-dessus, des mouettes qui criaillaient. Nul pilier d'art en pierre noire ne crevait la surface verte et mouvante. Aucun signe n'indiquait où il nous avait rejetés. Je ne pouvais pas rebrousser chemin. Mes amis étaient condamnés à mourir seuls. Malgré les exhortations du fou, j'avais résolu de retraverser aussitôt le pilier, sans quoi je n'aurais jamais accepté de partir. Je serais resté si j'avais su ne pas pouvoir revenir. Mais j'avais beau me le répéter, je ne m'en sentais pas moins lâche.
Œil de nuit !
Criai-je de toutes mes forces, éperdument. Aucune réponse ne me parvint.
Fou !
Mon hurlement futile m'arracha la gorge. Mélange de vifs, d'art et d'exclamations gutturales. Au loin, les mouettes parurent y faire un écho moqueur, et l'espoir mourut en moi comme leur cri au-dessus des flots balayés par le vent. Pétrifié, je restais le regard perdu sur l'horizon, jusqu'à ce qu'une vague vînt clapoter contre mes bottes. Le prince n'avait pas bougé, sinon pour retomber sur le flanc, dans le sable humide. Il frissonnait, les yeux vides. Je me détournais lentement du ressac et observais le décor. Des falaises noires se dressaient derrière nous, et la marée montait. Au bout d'un moment, un déclic se fit dans mon esprit. « Debout ! Il faut nous en aller avant d'être pris au piège. » Au sud, le tombant rocheux laissait place à une étendue de sable noir en demi-lune, adossée à un plateau herbu. Je me penchai pour saisir le prince par le bras. « Debout ! » répétai-je. « À moins que vous ne préfériez mourir noyé. » Le garçon se leva maladroitement, mais sans protester. À pas lourd, nous longeâmes la grève, cependant que les vagues se rapprochaient de nous. Le chagrin pesait comme une masse lourde et froide dans ma poitrine. Je n'osais pas songer à ce que j'avais fait. C'était trop monstrueux. Tandis que je marchais sur la plage, le sang de mes amis rougissait-il des épées. Je bloquais mon esprit. Comme si je dressais des remparts contre un intrus, je barrais le passage à toutes mes émotions, j'arrêtais toutes mes pensées et devins un loup seulement préoccupé par l'instant présent.
« Qu'est-ce que c'était ?»
demanda soudain Devoir.
« Cette sensation, cette attraction, ce... »
Les mots lui firent défaut.
« Était-ce l'art ?»«
Un de ses aspects. » répondis-je d'un ton revêche. Je le trouvais beaucoup trop intéressé par ce qu'il venait de vivre. Avait-il donc ressenti un appel si puissant? La séduction de l'art constitue le pire piège tendu à l'imprudent.
Il essayait de m'y former, mais il était incapable de me dire à quoi ça ressemblait. J'ignorais si je pratiquais l'art ou non, et lui aussi. Mais si je m'attendais à ça?
Il espérait une réaction à la hauteur de son enthousiasme. Mais il fut déçu. Je n'avais aucune envie de parler de l'art pour le moment. D'ailleurs, je n'avais aucune envie de parler tout court. Je ne voulais pas rompre l'état d'insensibilité dans lequel je m'étais réfugié. Nous arrivâmes à la plage en demi-lune, mais je continuais à marcher. Les vêtements mouillés du prince battaient dans le vent, et il tenait ses bras serrés sur sa poitrine pour se protéger du froid. La respiration tremblante. Un scintillement verdâtre dans le sable se révéla être un ruisseau d'eau douce qui se jetait dans la mer. Je le suivis vers l'amont à travers une étendue de joncs épais jusqu'à ce que se présente une dépression dans son lit. J'y prélevai de l'eau dans mes mains en coupe, je me rinçai plusieurs fois la bouche, puis me désaltérai. Je m'éclaboussai le visage pour laver mes yeux et mes oreilles du sable qui s'y étaient logés quand le prince m'interrogea de nouveau.
« Et, sire doré ? Et le loup, où sont-ils? Que leur est-il arrivé ? »
Il parcourut l'horizon du regard, comme s'il pensait les apercevoir. « Ils ne pouvaient pas nous accompagner. Alors qu'il est, j'imagine que vos amis les ont tués. » Je restais stupéfait de mon absence d'émotion. Ni sanglots, ni boules suffocantes dans la gorge. L'idée de leur mort était trop atroce pour être vraie. Aussi, plutôt que de l'envisager... J'avais jeté ma réponse au prince dans l'espoir de le voir broncher. Mais il se contenta de secouer la tête, comme s'il n'avait pas compris. Puis, il demanda d'un air hébété.
« Où sommes-nous ?»«
Ici, » répondis-je, et j'éclatai de rire. J'ignorais que la colère et le désespoir pouvaient provoquer une telle réaction. C'était affreux à entendre, et le prince eut un mouvement de recul. Soudain, il se dressa de toute sa taille et pointa un index accusateur vers moi.
« Qui êtes-vous »
demanda-t-il d'un ton autoritaire, comme s'il venait de découvrir le mystère sous-jacent à toutes ces interrogations. Accroupi au bord du ruisseau, je levai le regard vers lui, puis bus encore avant de répondre. « Tom Blaireau. » Les mains mouillées, je plaquai mes cheveux en arrière. « À cause de ça, Je suis né avec une mèche blanche à la tempe. Et c'est pour ça que mes parents m'ont appelé ainsi. « Menteur !» dit-il avec un mépris non dissimulé. « Vous êtes un loin-voyant. Vous n'en avez peut-être pas les traits, mais vous en possédez l'art. Qui êtes-vous ? Un cousin éloigné ? Un enfant naturel ?» J'avais souvent été traité de bâtard dans mon existence, mais jamais par quelqu'un d'aussi proche que mon propre fils. Je dévisageais de voir, héritier de Kétriken et de vérité par ma semence. « Si je suis un bâtard, me dis-je, qu'es-tu dans ce cas ?» Mais je déclarai simplement. « Est-ce important ?» Pendant qu'il cherchait une réponse, j'étudiais les environs. J'étais coincé dans cette région inconnue avec le prince, du moins jusqu'à ce que la marée redescende. Si j'avais de la chance, elle découvrirait le pilier qui nous avait amenés, et je pourrais m'en servir pour retourner à notre point de départ. Si je n'avais pas de chance, l'eau ne se retirerait pas assez loin, et il ne me resterait plus qu'à déterminer où nous nous trouvions et comment regagner Castelcerf à partir de là.
« Nous n'avons pas dû aller bien loin !»
Le prince cherchait manifestement à masquer par la colère sa soudaine inquiétude.
« Il ne nous a fallu qu'un instant pour arriver !»
Les distances ne comptent pas pour la magie que nous avons utilisée. Il se peut même que nous ayons quitté les six duchés. Je me tus, jugeant qu'il n'avait pas besoin d'en savoir davantage. Il répéterait sans doute à la femme Marguette tout ce que je lui apprendrais. Donc, moins j'en dirais, mieux cela vaudrait. Il s'assit lentement.
« Mais... »
fit-il. Puis il s'interrompit. Son expression était celle d'un enfant apeuré qui s'évertue à chercher autour de lui un élément familier. Pourtant, je n'éprouvais pour lui aucun élan de pitié. Au contraire, je dus me retenir de lui asséner une solide taloche. Pour ce petit égoïste pleurnichard, j'avais donné la vie de mon loup et de mon ami, et j'avais l'impression de n'avoir jamais fait si mauvais marché. « Orti, me dis-je, si j'arrive à le garder en vie, elle restera peut-être en sécurité. » C'était la seule valeur que je lui voyais pour l'instant, héritier du trône des loin-voyants ou non. Mais avec un effort de volonté, je révisais mon attitude et me répétais que Devoir n'était pas mon fils. N'ayant pas pris la responsabilité de son éducation, je n'avais aucun droit de me sentir déçu ou satisfait de lui. Je m'éloignais de lui, et le loup en moi me signala que je devais m'occuper de nos besoins physiques immédiats. Le vent glacé qui soufflait sans cesse sur la grève faisait claquer mes vêtements trempés. Il fallait que je trouve du bois et que j'allume un feu, si c'était possible, puis que je me sèche tout en cherchant de quoi manger. Me ronger les sangs pour œil de nuit et le fou ne menait nulle part. La marée montait toujours, par conséquent, elle serait basse vers le milieu de la nuit, puis de nouveau dans la matinée du lendemain. Je devais me résigner à l'idée que je ne pourrais pas retourner auprès de mes amis avant une journée presque complète. J'observais la forêt par-delà l'étendue de joncs. Les arbres arboraient encore le feuillage vert de l'été, et pourtant, j'eus l'impression d'un environnement sans vie, voire hostile, et je ne vis pas l'intérêt de traverser le plateau pour me mettre en quête de gibier dans le sous-bois. Je n'avais pas le cœur à la chasse. Les petites créatures de la grève feraient l'affaire. Ce n'était pas la meilleure décision à prendre alors que la marée montait. Il y avait du bois flotté en quantité, rejeté très haut sur la plage par une tempête et hors d'atteinte des vagues, mais les moules bleues et autres coquillages se trouvaient déjà submergés. Je choisis un emplacement le long de la déclivité que formait la falaise en s'abaissant jusqu'au niveau du plateau. Le vent n'y soufflait pas trop fort et je parvins à allumer un petit feu. Une fois qu'il eut bien pris, j'ôtai mes bottes, mes chaussettes et ma chemise et les tordis autant que je le pus pour en exprimer le plus d'eau possible. Puis je suspendis mes vêtements à des bouts de bois près de la flambée, enfilai mes bottes à l'envers sur deux bâtons plantés dans le sable pour les laisser s'égoutter, et enfin m'assis devant le feu, les bras serrés sur la poitrine pour me protéger du froid du jour qui mourait. Sans espoir, je tendis à nouveau mon esprit. Œil de nuit. Il n'y eut pas de réponse. J'essayais de me rassurer en songeant que cela ne voulait rien dire. Si le fou et lui
avait réussi à se sauver, il éviterait de me contacter de crainte de se faire repérer par les pies. Son silence indiquait peut-être qu'il préférait se taire tout simplement, ou bien qu'il était mort. Je resserrai encore mes bras autour de mon torse. Non. Je ne devais pas entretenir de telles pensées, sans quoi la douleur allait me terrasser. Le fou m'avait demandé de garder le prince de voir en vie. C'était ma mission, et je la remplirais. Quant au pis, il n'oserait pas tuer mes amis. Il voudrait savoir où était passé leur otage, comment il avait pu disparaître sous leurs yeux. Qu'allait-il faire au fou pour lui arracher des réponses? Non, ne pense pas à ça. À contre-cœur, je me levai pour aller chercher le prince. Allongé sur le flanc, dos à moi, il n'avait pas bougé. Il ne se retourna pas à mon approche, et je le poussai sans douceur du bout du pied. « J'ai fait du feu, » dis-je d'un ton sec. Il ne réagit pas. « Prince Devoir !» Je n'avais pu m'empêcher de prendre un ton sarcastique, mais il n'eut pas un mouvement. Je m'accroupis et posai la main sur son épaule. « Devoir ?» Je me penchai pour voir son visage. Il n'était plus là. Son expression était vide, son regard terne et sa bouche entr'ouverte et flasque. Je me saisis de l'infime lien d'art qui nous unissait pour le rattraper, mais ce fut comme si je tirais sur un fil de pêche cassé. Je ne sentis aucune résistance, aucune impression qu'il y eût jamais eu quelqu'un à l'autre bout. J'entendis soudain l'écho effrayant d'une leçon de mon passé. Si tu t'abandonnes à l'art, si tu ne résistes pas fermement à son attraction, il est capable de te réduire en charpie. Et tu ne seras plus alors qu'un nourrisson géant, un filet de bave aux lèvres, qui ne voit plus rien, qui n'entend plus rien. J'en eus la chair de poule. Je secouai le prince, mais sa tête roula mollement sur ses épaules.
« Fou que je suis !»
hurlai-je à la face du ciel. J'aurais dû me douter qu'il tenterait de contacter la Marguette. J'aurais dû prévoir le risque qu'il courait. Je me dominai, recouvrai mon sang-froid, puis je me baissai, saisis le bras du garçon et le passai autour de mon cou. Cela fait, je le pris par la taille, le redressai et le traînai sur la plage, ses pieds laissant deux sillons parallèles dans le sable. Arrivé près du feu, je le déposai au sol et il resta sur le flanc inerte. Je passai ensuite plusieurs minutes à rajouter du bois à la flambée, jusqu'à obtenir un haut brasier qui repoussait efficacement le froid. Je ne me souciais pas des prédateurs, humains ou animaux, que son éclat risquait d'attirer, et je ne pensais plus à ma faim ni à ma fatigue. Je retirai ses bottes au prince, vidai l'eau qu'elles contenaient et les mis à sécher à l'envers. L'évaporation faisait déjà fumer ma propre chemise. J'ôtai celle de Devoir et la suspendis. Je lui parlais sans arrêt, et mon ton de reproche et de sarcasme fit bientôt place à des accents implorants. Mais il ne réagissait toujours pas. Il était glacé. Tant bien que mal, je lui enfilai ma chemise tiédie par le feu, puis lui frictionnai les bras, mais on eût dit que son immobilité invitait le froid à l'envahir. D'instant en instant, la vie semblait abandonner sa chair. Il ne respirait pas difficilement, son cœur ne ralentissait pas, mais sa présence, que je percevais par le vif, s'estompait comme s'il s'éloignait physiquement de moi. Pour finir, je m'assis derrière lui, l'attirai contre moi, et le serrai dans mes bras dans un futile effort pour le réchauffer. « Devoir, » lui dis-je à l'oreille, « reviens, petit, reviens. Tu as un trône à prendre et un royaume à gouverner. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Reviens, mon gars. Il ne faut pas que tout ait été inutile. Il ne faut pas que le fou et œil de nuit soient morts pour rien. Qu'est-ce que je vais dire à Kétriken, moi? Et Imbre, que va-t-il me dire? Dieu, Dieu, que me dirait de faire vérité ? » La question n'était pas tant ce que vérité m'aurait conseillé que ce qu'il aurait fait à ma place. Je serrai son fils contre moi et plaquai mon visage contre sa joue lisse. Je pris une grande inspiration et abaissai tous mes remparts. Puis je fermai les yeux et me glissai dans l'art pour me mettre à sa recherche. Et je faillis me perdre. En certaines occasions, il m'est arrivé de rester pratiquement incapable d'accéder au flot de l'art, et en d'autres temps et lieux, je me suis retrouvé immergé dans cette magie comme dans un fleuve de pouvoir extraordinairement rapide et puissant. Adolescent,
J'avais évité de justesse de m'y dissoudre grâce au soutien et au secours de vérité. J'avais acquis de la résistance et de la maîtrise depuis lors, ou du moins, je le croyais. La sensation que j'éprouvais en partant en quête du prince fut celle d'un plongeon dans un torrent d'art en cru. Jamais je ne lui avais connu une telle force, ni une telle puissance d'attraction. Dans l'état d'esprit où je me trouvais, il me semblait être en présence de la réponse parfaite à ce que j'étais. Il me suffisait de lâcher prise, de cesser d'être l'individu Fitz pris au piège de sa chair meurtri par les combats, de cesser de pleurer des larmes de sang sur la mort de mes amis les plus proches. Je n'avais qu'à me laisser aller. L'art m'offrait l'existence sans la pensée. Il ne s'agissait pas de la tentation de mourir et de faire disparaître le monde pour soi, mais d'une sollicitation beaucoup plus séduisante, celle de changer la forme de son être et de se délester de toute préoccupation. La fusion. Si je n'avais eu qu'à penser à moi, je m'y serais abandonné, je le sais. Mais le fou m'avait chargé de veiller à ce qu'il ne mourût pas en vain, et mon loup m'avait demandé de vivre et de parler de lui à Orti. Ketriken m'avait donné pour mission de lui ramener son fils. Imbre comptait sur moi et Heur dépendait de moi. Aussi, dans ce courant bouillonnant de sensations, je luttais pour rassembler mon identité. J'ignore combien de temps il me fallut pour cela. Heures et minutes n'ont pas de sens dans ce monde-là, ce qui en soi constitue un des plus grands périls de l'art. Une partie de mon esprit savait que je consumais les réserves de mon corps, mais quand on est immergé dans l'art, il est difficile de se soucier des détails matériels. Quand je fus assuré de mon individualité, je me mis prudemment en quête de devoir. Je m'étais imaginé que le retrouver serait une simple formalité, car la veille, je n'y avais eu aucun mal. Je le tenais seulement par la main alors, et je l'avais immédiatement repéré. Ce soir, j'avais beau savoir quelque part que j'étreignais son corps glacé, je n'arrivais pas à le voir. Il est malaisé de décrire ma méthode de recherche, car l'art n'est ni un lieu, ni un temps à proprement parler. Parfois, il me semble qu'on peut le définir comme l'état de l'être débarrassé des limites du soi. Mais, en d'autres occasions, cette vision me paraît trop étriquée, car les limites du soi ne sont pas les seules que nous imposons à notre expérience de l'être. Je m'ouvris à l'art et le laissai me traverser comme l'eau traverse un crible, mais je ne perçus nulle trace du prince. Je m'étendis sous son flot comme un versant de colline recouvert d'herbes rases sous le soleil et le laissai effleurer chacun de mes brins, mais je ne captais toujours rien. Je m'infiltrai en lui et m'enroulai autour de lui comme du lierre. Mais je restais incapable de distinguer le garçon du fleuve de magie. Le prince avait laissé une impression de lui dans l'art, mais, comme une empreinte de pas dans une fine poussière par un jour de vent, cette trace se résolvait rapidement en fragments pulvérulents et dépourvus de signification, emportés par le flot. J'en recueillis ce que je pus, mais ce n'était pas plus le prince de voir que le parfum de la fleur n'est la fleur elle-même. Néanmoins, je m'accrochais farouchement aux particules que je reconnaissais. Il me devenait de plus en plus difficile de me rappeler précisément l'essence du prince. Je ne le connaissais pas bien, et la chair que mes bras enserraient était en train de perdre rapidement tout lien avec lui. À bout de ressources, je me plongeais complètement dans le courant de l'art. Je ne lui abandonnais pas mon individualité, mais je me dégageais de tous les points d'ancrage qui avaient assuré ma sécurité jusque-là. L'impression fut à la fois effrayante et hors de toute expérience. J'étais un cerf-volant dont on a coupé la ficelle en plein vol, un frêle esquif sans personne à la barre. Je n'avais pas oublié qui j'étais, mais j'avais renoncé à la certitude absolue de pouvoir regagner mon corps. Malheureusement, je n'y gagnais pas de retrouver devoir. J'acquis seulement une conscience accrue de l'immensité dans laquelle je baignais et de la vanité de mes efforts. Il aurait été plus facile de prendre au filet la fumée d'un feu éteint que de rassembler l'esprit épars du garçon. Et pendant ce temps, l'art m'invitait sans relâche et me murmurait des promesses. Il ne m'apparaissait froid et violent qu'à cause de ma résistance. Si je cédais, il deviendrait aussitôt chaleureux, confortable et inconditionnellement accueillant, je le savais. Si je rendais les armes, je m'enfoncerais dans une existence paisible sans conscience individuelle. Et qu'y aurait-il de si terrible à cela? Œil de nuit et le fou n'étaient plus. J'avais échoué à ramener devoir à Ketriken. Molly ne m'attendait plus. Elle avait trouvé une nouvelle vie et un nouvel amour. Et heure, me dis-je, en m'efforçant de réveiller en moi quelques sentiments de responsabilité, que deviendrait-il? Eh bien, Humbre subviendrait à ses besoins, d'abord par devoir envers moi, et bientôt par affection pour le garçon lui-même. Mais Horty, qu'adviendrait-il d'Horty? La réponse était là, insupportable. Je l'avais déjà trahi. Il était impossible de retrouver devoir, et sans lui, elle était condamnée. Souhaitais-je revenir parmi les hommes pour assister à la fin qui l'attendait? Pourrais-je savoir le sort auquel elle était promise sans perdre la raison? Une pensée plus atroce encore me vint. En ce lieu où le temps n'existait pas, tout cela s'était déjà produit. Elle était déjà morte. Ma décision fut prise aussitôt. Je lâchai les fragments de devoir que j'avais rassemblés et le courant les emporta. Comment décrire ce que je ressentis? Peut-être comme l'impression de me tenir sur une colline ensoleillée et de libérer un arc-en-ciel emprisonné dans ma main. Alors qu'il s'écoulait dans le flot de l'art, je me rendis compte que ces quelques traces de lui s'étaient fondues à ma propre essence et que mon être s'en allait avec le sien. C'était sans importance. Vite, ce chevalerie loin-voyant s'enfuyait de moi en longs rubans. Les chevaux de ce que j'étais se dévidaient dans le fleuve de l'art. Autrefois, j'avais déversé mes souvenirs dans un dragon de pierre. Je m'étais débarrassé avec bonheur de la souffrance, de l'amour sans espoir et de nombre d'autres expériences. J'avais donné cette part de mon existence afin de fournir assez d'êtres au dragon pour qu'il s'éveille à la vie. Ce que j'éprouvais cette fois-ci était différent. Qu'on imagine une blessure où l'on se vide de son sang, non pas douloureuse, mais au contraire agréable et néanmoins mortelle. Je regardais passivement ma vie m'abandonner. Allons, ça suffit maintenant. Il y avait un amusement chaleureux dans la voix féminine qui emplit ma tête, et impuissant, je sentis la présence enrouler le fil de mon être autour de moi, comme si elle rembobinait une quenouille. J'avais oublié l'amour extravagant des humains pour le tragique quand ils touchent le fond de leur bêtise. Rien d'étonnant à ce que vous nous ayez tant amusés. Quels petits animaux passionnés vous faites? Qui? Je ne pus élaborer davantage ma question. La présence féminine m'emplissait d'une béatitude qui m'ôtait toute force. Et ceci aussi est à toi, je suppose. Ah non, c'en est un autre. Deux d'entre vous ici, en même temps, et en train de vous désintégrer. Vous seriez-vous égaré? Égaré? Je répétais le mot, incapable de donner forme à un concept par moi-même. J'étais un tout petit enfant choyé, adoré pour ma seule existence, et mon ravissement me privait de tous mes moyens. L'amour de la présence m'emplissait d'une douce chaleur. Jamais jusque-là, je n'avais pu imaginer un tel état. Être aimé, reconnu exactement selon mes besoins, et me satisfaire de ce que j'avais déjà. Cette satiété me comblait davantage que l'abondance, et elle m'était une plus grande richesse que les trésors d'un roi. Jamais de ma vie, je n'avais éprouvé pareille sensation. Allons, repars d'où tu viens, et fais plus attention la prochaine fois. La plupart des autres ne remarqueraient même pas qu'ils t'ont attiré. Elle va se débarrasser de moi comme on chasse une poussière de sa manche, songeai-je, atterré. Mais elle me tenait en son sein, et j'étais trop étourdi de plaisir pour résister alors qu'elle s'apprêtait, je le savais, à commettre l'inconcevable. « Attendez, attendez, attendez !» criai-je en faisant un violent effort, mais ma pensée n'avait aucun poids, et la présence n'y prit pas garde. Le temps d'un clin d'œil, voire moins, je sentis devoir à côté de moi, tout près. Puis je me retrouvais dans les horribles limites de mon pitoyable petit corps. Il avait mal, il avait froid, et il était abîmé, plein de lésions anciennes et nouvelles. De toute manière, il n'avait jamais très bien fonctionné. Et pire encore, tout en lui était insuffisant. Il était criblé d'envie et de grands besoins béants. Dans cette chair, je n'avais jamais reçu, et je ne recevrai jamais assez d'amour, assez de considération, ni... Je me ruais hors d'elle. Mais le seul résultat fut que mon corps fut pris d'une violente convulsion et s'effondra sur le sable. Je ne pouvais pas en sortir. À l'étroit, suffoquant dans cette enveloppe mal taillée qui m'entravait, je n'arrivais pas à trouver la moindre issue. Je ressentais un inconfort aigu et inquiétant, proche de celui qu'on éprouve quand on se fait tordre le bras dans le dos ou étrangler, et plus je me débattais, plus je m'enfonçais dans mes membres agités de mouvements violents, jusqu'au moment où je me retrouvais définitivement noyé dans ma chair suante et parcouru de tremblements spasmodiques. Je cessais de lutter, accablé par les sensations d'un corps physique. Le froid, le sable sous la ceinture de mes chausses, au coin d'un de mes yeux et dans mon nez, la soif, la faim, les meurtrissures et les entailles. Le manque d'amour. Je me redressai lentement sur un coude. Le feu était presque éteint. J'étais resté absent un long moment. Je me levai à mouvements raides et jetai le dernier morceau de bois sur les braises. Puis le monde retrouva brusquement sa perspective habituelle et tout ce que j'avais perdu me revint à l'esprit, me submergeant aussi complètement que la nuit. Pétrifié, je pleurais, terrassé par la mort du fou et deuil de nuit, mais encore plus anéanti par le sentiment d'avoir été abandonné par la présence. Ce n'était pas comme si je m'éveillais d'un rêve, c'était même plutôt le contraire. En elle, j'avais trouvé la vérité, l'absence de toute barrière, la simplicité de l'être. Replongé dans le monde ordinaire, je voyais mon univers comme un enchevêtrement d'éléments désordonnés, de gènes, d'illusions et d'artifices. J'avais froid. Mon épaule m'élançait. Le feu mourait, et chacun de ces petits ennuis tiraillait mon attention. Au-dessus d'eux planait le problème du prince de Voir, de la façon dont nous allions regagner Castelserre et du sort d'œil de nuit et du fou. Pourtant, même ces questions-là m'apparaissaient comme des diversions présentées à mon esprit pour détourner mes pensées de l'immense réalité qui se cachait derrière elles. Toute l'existence se composait de mots insignifiants et de souffrances atroces, et chacun d'eux ajoutait un masque qui dissimulait davantage le visage de l'éternité. Cependant, cette superposition de masques avait repris sa place, et je devais l'accepter. Mon corps frissonna. La mer descendait. Je ne distinguais rien en dehors du cercle de lumière de notre feu, mais son retrait était perceptible au rythme des vagues. La brise apportait l'odeur caractéristique de la marée basse, des algues et des coquillages à l'air libre. Le prince était allongé sur le dos, les yeux ouverts. Je l'observais et crus tout d'abord qu'il était inconscient. Dans la maigre lueur des flammes déclinantes, ses orbites m'apparaissaient comme deux trous noirs. Mais il déclara soudain « J'ai fait un rêve ». Il s'exprimait d'un ton à la fois hésitant et stupéfait. « Quelle chance !» Mon ironie était étrangement neutre. J'éprouvais un soulagement immense à constater qu'il avait réintégré son corps et qu'il était capable de parler, mais je ressentais également une horreur sans nom à l'idée de me trouver à nouveau prisonnier de ma chair et d'être obligé de l'écouter. Mon ton hargneux ne parut pas l'affecter, et c'est d'une voix douce qu'il reprit. Je n'ai jamais fait un songe pareil. Je sentais tout. J'ai rêvé que mon père m'empêchait de partir en morceaux et qu'il me répétait que j'allais m'en sortir. C'est tout. Mais le plus étrange, c'est que cela me suffisait. Je n'avais besoin de rien d'autre. Et de voir me sourit. C'était un sourire lumineux, à la fois juvénile et plein de sagesse, qui le fit ressembler à Ketriken. Il faut que j'aille chercher du bois, dis-je au bout d'un moment. Je tournai le dos à la lumière, au feu et au garçon souriant pour m'enfoncer dans les ténèbres. Je ne me mis pas en quête de combustible. La marée descendante avait laissé le sable humide et dur sous mes pieds nus. et un mince croissant de lune s'était levé. Je le regardais, puis j'étudiai le reste du firmament, et je sentis mon estomac se nouer. D'après les étoiles, nous nous étions déplacés vers le sud, à une distance considérable des six duchés. Grâce à mon expérience des piliers d'art, je savais qu'ils permettaient d'éviter quelques jours de voyage, mais je n'avais pas imaginé qu'ils eussent un tel pouvoir. Si le lendemain, la basse mer ne découvrait pas la pierre, c'était un long voyage qui nous attendait, pour lequel nous n'étions pas préparés. L'astre des nuits me rappela aussi que nous n'avions plus guère de temps devant nous. Dans 8 jours, la nouvelle lune devait annoncer la cérémonie de fiançailles du prince de Voir. Se tiendrait-il aux côtés de la Narcheska? J'éprouvai quelques difficultés à prêter de l'importance à la question. Il est des moments dans la vie où, pour ne pas penser, on doit faire appel à toute sa concentration. J'ignore donc quelle distance j'avais parcouru quand je sentis un objet bouger sous mon pied dans le sable mouillé. Je crus d'abord qu'il s'agissait d'une lame d'acier posée à plat, je me baissai, et dans le noir, la localisai au toucher. Elle avait la longueur voulue pour un couteau de boucher, la forme également, et elle était froide et dure comme de la pierre ou du métal, mais ce n'était pas une lame. Je parcourus l'objet du bout des doigts avec précaution. Les bords n'étaient pas aiguisés, et il était partagé sur toute sa longueur par une nervure centrale, de part et d'autre de laquelle partait une multitude de fines stries obliques. Il se terminait à l'une de ses extrémités par une sorte de tube, et il était lourd, bien que pas autant que son volume l'eût laissé présumer. Je restai immobile dans l'obscurité, certain de connaître sa nature, mais incapable de me la rappeler. L'objet m'était bizarrement familier, comme s'il m'avait appartenu très longtemps auparavant. Cette énigme constituait une distraction bienvenue qui me permettait d'oublier un moment mes tristes réflexions. Je repris ma promenade, l'objet à la main, et je n'avais pas fait 10 pas que j'en sentis un autre sous mon pied. Je le ramassai, et au toucher, le comparai au premier. Il n'était pas tout à fait identique. L'un était un peu plus long que l'autre. Je les gardais tous les deux et continuai mon chemin. Quand je posai le pied sur le troisième, je fus à peine surpris. Je le saisis et le débarrassai du sable collant d'humidité. Puis je restai immobile, envahi par l'étrange impression d'une présence qui m'attendait. Elle flottait, indécise, incapable de prendre forme sans le concours de ma volonté. J'avais la sensation extrêmement singulière de me trouver au bord d'une falaise. Il me suffisait d'avancer d'un pas pour découvrir si j'allais m'écraser après une chute effrayante ou bien si je savais voler. Je m'écartai du vide. Je fis demi-tour et repartis vers le feu mourant. J'aperçus la silhouette de Devoir qui passait devant les flammes, puis une nuée d'étincelles qui montait dans le ciel, soulevée par le bois qu'il avait rajouté à la flambée. Il avait au moins une certaine notion de ce qui était bon pour lui. Il m'en coûtait de retourner dans ce cercle de lumière. Je n'avais pas envie de me trouver face au garçon, de supporter ses questions, ni ses accusations. Bref, je n'avais nulle envie de reprendre les rênes de ma vie. Mais quand j'arrivais près du feu, Devoir était étendu et feignait de dormir. Il portait sa chemise et je vis la mienne étendue à sécher sur les bâtons que j'avais plantés. Je l'enfilai sans rien dire, et alors que j'ajustais mon col, je sentis sous mes doigts l'amulette de Gina. Ah ! Voilà qui expliquait son sourire et son ton amène. Je m'allongeai de l'autre côté du feu. Avant de fermer les yeux, j'examinai les objets que j'avais rapportés. C'étaient des plumes, de pierre ou de métal, je ne parvenais toujours pas à me prononcer. À la lueur trompeuse des flammes, elles paraissaient gris sombre. Dès que je les vis, je sus quelle était leur place. Je doutais néanmoins qu'elles y parviennent un jour. Je les posai près de moi et fermai les paupières pour m'enfuir dans le sommeil.